Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Il va donc falloir faire avec. On le savait bien sûr, mais d'élection en élection, ça se confirme. Il arrive quand même deuxième du scrutin au niveau national. 8 de ses candidats sont élus dès le premier tour. C'est certes moins que l'UMP avec 38 élus du premier coup et que le PS avec 24, mais 8, ça fait déjà beaucoup, non ? En Maine-et-Loire, il sera présent dans un tiers des cantons au deuxième tour selon Angers Mag. À Beaupro, Tiercé ou à Beaufort-en-Vallée, il arrive deuxième. Déjà, hier soir, les commentateurs politiques parlaient de tripartisme, alors que lors de toute notre éducation civique au collège, les profs nous enseignaient le bipartisme de la vie politique française. Comment faire alors ? Faire avec, admettre son implantation dans le paysage politique, continuer de le considérer comme un parti à part ? Comment en parler sans stigmatiser ses électeurs ? Doit-on continuer de prononcer son nom plus que de raison, Front National ? Je n'ai pas de réponse.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons les Death Gazers en vue de leur passage au bar du quai jeudi. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. Oui, alors on va essayer de comprendre comment les météorologues lisent dans les nuages. C'est quoi un anticyclone ? Pourquoi il n'y a plus de saison, ma bonne dame ? Quelle température il fera en 2100 ? Les réponses, et bien d'autres encore, c'est maintenant.
Je ne me rappelle pas avoir une séance de pluie aussi longue.
Au mois d'avril, justement, c'était l'été. Et en été, c'est le printemps, c'est bizarre quoi.
Faut s'adapter, on peut pas faire autrement de toute façon.
Franchement, je sais pas ce qui se passe là-haut, mais comme on dit si bien, il y a un gros problème là.
Extrait d'un micro-trottoir météo signé l'express.fr, puisque figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. Bonjour Eric Allard.
Bonjour.
Vous êtes chef de centre Météo France à Beaucouzé. C'est un centre qui couvre deux départements, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment devient Monsieur Météo ?
Eh bien, en général, on s'intéresse au départ à la météorologie. Il y en a beaucoup de mes collègues qui ont commencé déjà tout seuls chez eux, tout enfant, à observer le ciel, à faire des relevés météo. Et puis après, on fait des études scientifiques, physiques, mathématiques, et on suit une formation de technicien ou d'ingénieur météorologiste à l'École nationale de météo qui se trouve à Toulouse.
Il n'y en a qu'une en France ?
Il n'y en a qu'une, oui.
Alors, en quoi ça consiste ce travail de chef de centre Météo France, puisque... On ne vous voit pas à la télévision comme on a l'habitude de voir les messieurs météo. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement ?
Eh bien, on fait tout le travail préparatoire avec lequel ils élaborent leur bulletin météo. Et c'est le résultat d'une grande chaîne de travail. Et nous sommes aux deux extrémités de la chaîne. Donc je vais expliquer ça, si vous voulez bien, un peu plus longuement. À la première extrémité, d'abord, pour savoir quel temps il va faire, il faut d'abord savoir quel temps il fait aujourd'hui. Commencer par ça. Donc avoir une description aussi fine et précise de l'atmosphère que possible. Donc mes collègues qui travaillent 7 jours sur 7 au centre météo de Beaucouzé observent le temps. C'est la première partie de leur travail. Donc ils notent tout au long de la journée la présence de nuages, le soleil, les averses de pluie, de neige, etc.
Ils notent ça à quelle fréquence à peu près pour
qu'on se rende compte ? C'est noté en permanence dans la journée. Les averses n'arrivent pas forcément à une fréquence bien régulière. Donc on note tout ça. Et puis il y a aussi une partie automatique. Hein, tous les relevés de température, de l'humidité, etc. sont faits de manière automatisée. Toutes ces données-là sont conservées et rentrent dans une grande base de données à partir de laquelle on peut commencer à travailler sur la prévision. Donc ensuite, une fois qu'on a une image bien précise de l'atmosphère en France, mais aussi dans le monde entier, hein, l'Organisation mondiale de la météorologie qui organise cette journée mondiale, regroupe l'ensemble des pays qui font des observations météo, et c'est quasiment l'ensemble des pays du monde. Et ces pays échangent, à travers d'un réseau d'informations météorologiques, échangent leurs observations. Donc on peut avoir au Centre technique Météo France, qui se trouve à Toulouse, en banlieue toulousaine, on peut avoir en permanence une image très précise de l'atmosphère sur l'ensemble du globe. Alors pourquoi sur l'ensemble du globe? Parce que tout simplement, le temps qu'il va faire chez nous dans quelques minutes dépend du temps qu'il fait autour d'Angers, hein, ça c'est pas bien difficile. Mais le temps qu'il fera chez nous dans 4 jours ou 5 jours dépend quasiment du temps qu'il fait sur l'ensemble du globe, l'ensemble de la Terre. Hein, puisque l'atmosphère se déplace, évolue. Donc on part de cette image de l'atmosphère sur le globe entier et on essaie de calculer son évolution. Alors c'est à base d'équations, de physique, de thermodynamique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein, et ces équations, ben on essaie de les résoudre à partir de ce qu'on connaît de l'atmosphère. Donc pour les résoudre, on a besoin d'équipements informatiques extrêmement puissants. Donc à Toulouse, Météo France utilise un calculateur de très grande puissance, l'un des plus rapides et des plus puissants en France actuellement. Et dans ce calculateur, on met ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire des systèmes de calcul informatiques hein, qui ont été créés par les chercheurs de Météo France. Et à partir de ces modèles, dans ces modèles, on fait rentrer les données observées. Donc l'observation du globe. On calcule l'évolution de l'atmosphère. Alors on la calcule par petits pas de 10 minutes, par petits pas d'un quart d'heure. Donc on calcule à partir d'un instant zéro, on calcule comment va être l'atmosphère à 0 plus 15 minutes, puis 0 plus 30 minutes, etc. Et de pas en pas, on avance jusqu'à une échéance maximum. Actuellement, on va pas au-delà d'une dizaine de jours.
Alors, observation plus calcul, voilà tout?
Voilà. Et l'ordinateur nous sort du calcul informatique un certain nombre de cartes. On a plusieurs centaines de cartes et de documents. Alors des cartes assez faciles, des cartes de pression par exemple, où on voit les anticyclones et les dépressions, des cartes de pluie prévues et des choses comme ça. Puis des cartes beaucoup plus complexes qu'il faut être spécialiste pour savoir analyser. Ces cartes ne nous donnent pas en direct le temps qu'il va faire. Ça serait trop facile. Hein. Il faut les interpréter. Et donc, il y a à Toulouse, toujours au Centre National Météo France à Toulouse, il y a une équipe d'une dizaine de prévisionnistes qui analysent les cartes, qui analysent les résultats des modèles de prévision, qui les comparent avec les résultats des modèles de prévision étrangers. Les Allemands aussi font des prévisions, les Anglais, hein, sur l'ouest de l'Europe. Il y a aussi un centre de prévision européen dans la banlieue de Londres. Donc, les prévisionnistes comparent les résultats des différents modèles et puis essaient d'en extraire l'information la plus précise possible. Et cette information, ils la traduisent en ce qu'on appelle, nous, le temps sensible, c'est-à-dire en termes que le grand public est capable de comprendre.
Et les satellites, tout ça, ça vous sert à rien dans l'histoire? Parce que vous parlez d'observation, de relevé, de voilà, est-ce qu'il y a une averse, est-ce qu'il fait beau, quelle température il fait, mais vous n'allez pas chercher les informations là-haut?
Si, les satellites sont un des éléments d'observation. Hein. Les humains font des observations à partir du sol, donc par en dessous, et les satellites, eux, font des observations par au-dessus. Ça a été un progrès énorme dans la météorologie, le fait d'avoir des satellites. Et donc les satellites nous permettent de voir exactement où sont les nuages, comment ils se déplacent, à quelle vitesse, et ils rentrent pour beaucoup dans les modèles de prévision. On utilise aussi des radars, par exemple. Les radars nous donnent nous mesurent et observent les zones de pluie. Donc on peut, avec les radars, avec les images radars, faire des prévisions très précises d'évolution de la pluie. Si vous utilisez, par exemple, le site internet Météo France, météo.fr, vous avez sur ce site des prévisions de la pluie dans l'heure qui vient à l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez aussi une appli sur smartphone qui marche très bien là-dessus. Beaucoup de gens que je connais l'utilisent.
Est-ce qu'on peut faire un petit point de vocabulaire, Eric Allard, pour essayer de nous expliquer concrètement les mots qu'on entend quand on entend un bulletin météo? Un anticyclone, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, avant de répondre à la question, je vais faire une petite précision. Nous, on fait à Météo France, on fait des bulletins météo, qu'on diffuse après dans la presse. On n'utilise jamais ces termes-là d'anticyclone, de dépression, parce que tout le monde ne les comprend pas. Donc on essaie d'éviter de les utiliser. Je dis jamais, ça doit nous arriver de temps en temps de l'employer par erreur, mais
pourtant, on
essaie
d'éviter. Pourtant, c'est du vocabulaire qu'on entend.
Oui, sur les bulletins météo, sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio, mais pas dans les bulletins météo diffusés directement par Météo France.
Voilà, on essaie de les éviter.
Alors l'anticyclone, c'est une zone de haute pression, et quand les pressions sont élevées, les nuages font le tour de cette zone de haute pression. Donc en général, on associe à ces anticyclones du temps, du beau temps, ce qu'on appelle du beau temps. Ça aussi, on essaie d'éviter d'employer le terme de beau temps, parce que c'est pas toujours beau pour tout le monde. Un agriculteur qui attend de la pluie, par exemple, pour arroser ses semis, s'il fait sec, s'il fait un grand soleil, c'est pas pour lui du beau temps, forcément. Donc on essaie d'éviter ça aussi.
Et l'anticyclone des Açores, il est où, celui-là? On entend beaucoup parler de lui.
Eh bien, il est en moyenne, je dis bien en moyenne, centré sur les Açores, justement, donc sur le proche Atlantique. Et selon qu'il remonte plus ou moins vers le nord ou qu'il reste vers le sud de l'Europe, eh bien, on a du beau temps ou du temps un peu moins ensoleillé.
Une dépression, qu'est-ce que c'est ? En termes météorologiques.
En termes météorologiques, c'est l'inverse de l'anticyclone, c'est-à-dire une zone de basse pression dans laquelle, en général, se concentrent les nuages, la pluie. Donc, c'est pas la dépression, c'est pas la situation météo la plus idéale.
Un front, on entend souvent front nuageux, front. Voilà, ça s'est délimité comment ça, c'est...
Alors,
c'est une frontière, c'est ça
c'est... Oui, c'est une limite entre deux masses d'air, ce qu'on appelle nous des masses d'air. Si vous voulez, autour du globe, autour de l'hémisphère nord, on va se contenter de l'hémisphère nord, circulent des masses d'air chaud, des masses d'air froid. Et la limite entre les masses d'air chaud et les masses d'air froid, c'est ce qu'on appelle un front. Alors les fronts sont plus ou moins actifs et en général à un front sont associés des nuages et des pluies.
Et les normales de saison, alors en gros c'est les températures auxquelles on doit s'attendre tel jour dans l'année, c'est ça ?
Voilà, on a fait la moyenne des 30 dernières années.
30 dernières années, d'accord.
C'est la norme internationale, les 30 dernières années. Et donc c'est la valeur à laquelle on peut s'attendre un jour moyen dans l'année. Donc c'est ça qu'on appelle la normale.
Ça fait combien de temps que la météo, ça existe ? Ça fait combien de temps que les populations s'intéressent au ciel comme ça ? Et puis ça fait combien de temps surtout qu'il y a des stations météo d'implantées un peu partout ?
Alors la météo existe depuis toujours, depuis qu'il y a une humanité.
Ça a toujours intéressé les gens.
Les gens ont toujours considéré que ce qui arrivait du ciel, ce qui tombe du ciel en particulier, la pluie, la neige, etc., ça avait une importance pour leur vie de tous les jours. Alors petit à petit, les gens se sont intéressés à faire des relevés météo. En Maine-et-Loire, par exemple, on a, dans les archives, on a des relevés météo. Les plus anciens datent de 1790. Les instruments de mesure météo ont été inventés au XVIe siècle. Le réseau d'observation météorologique tel qu'il existe aujourd'hui, avec des stations météo sur toute la France, etc., lui, date des années 1940-45.
Vous disiez tout à l'heure que maintenant vous pouviez prévoir à 10 jours. L'indice de confiance, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, il varie comment dans ces 10 jours-là ? Jusqu'à quand on peut vous croire ?
Jusqu'aux 10 jours, jusqu'au bout. Tout simplement parce qu'on mesure la qualité de nos prévisions, bien évidemment. Par exemple, les prévisions qu'on fait aujourd'hui à une semaine, 7-8 jours, sont aussi bonnes que celles qu'on faisait il y a 30 ans à 3 jours. Donc on a gagné 4-5 jours en 30 ans. Vous me direz, c'est pas beaucoup, c'est énorme par rapport aux capacités à la recherche. L'indice de confiance, c'est autre chose. Quand vous entendez les prévisions à la télévision, on vous dit, voilà, indice de confiance, 3 sur 5, 4 sur 5. Ça mesure très précisément la confiance que le prévisionniste a dans sa prévision. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'équipe de prévisionnistes à Toulouse qui analyse les résultats des modèles. Cette équipe a un chef à sa tête, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide quand il y a un désaccord, et ce chef prévisionniste, c'est lui qui donne l'indice de confiance. Donc quand on vous donne un indice de confiance faible, 1 ou 2, ça veut dire que la prévision, on a fait ce qu'on a pu, pour faire une prévision la meilleure possible, mais on n'est vraiment pas très sûr du résultat. Donc si vous avez une décision à prendre qui comporte des risques, tenez compte des risques. Hein. Par contre, si on vous donne un indice de confiance de 4 ou de 5 sur 5, vous pouvez y aller. Si vous avez prévu un week-end en plein air avec des amis, allez-y, il fera beau ou il fera pas beau, selon la prévision. Et tenez compte de la prévision.
Avec les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut imaginer dans les années, ou le siècle à venir, qu'on puisse voir encore plus loin ? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits ou qui vont être faits prochainement ?
Alors, la prévision météo, à Toulouse, très précisément, il y a dans le même bâtiment le service de prévision et le service de recherche. Et tous les jours, le chef prévisionniste qui a fait sa prévision la veille ou l'avant-veille analyse le résultat de la prévision. Et s'il y a un décalage entre la réalité et la prévision, il analyse le pourquoi du décalage et il il donne ce résultat sur une fiche, c'est très normalisé, au service de recherche qui essaie de trouver une solution pour éviter que ça se reproduise. Et ça tous les jours. Donc on aboutit comme ça à une amélioration permanente de la qualité de la prévision. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 3 jours à 8 jours. Aujourd'hui, on fait des prévisions jusqu'à 10 jours. On en fait au-delà, en réalité, mais pour l'instant, elles ne sont pas suffisamment bonnes pour qu'on les diffuse au public. On ne les diffuse que quand on estime qu'elles apportent une information. Jusqu'où on va pouvoir aller ? Le système de prévision tel qu'on le fait actuellement par calcul informatique, ce qu'on appelle la prévision déterministe, on estime qu'on ne pourra pas aller au-delà d'une quinzaine de jours en utilisant cette méthode de prévision. Au-delà de 15 jours, il existe des méthodes qui sont un mélange de la prévision déterministe et de statistique. Et ces méthodes devraient permettre de pouvoir faire des prévisions à 3 mois, 4 mois d'échéance, mais elles seront beaucoup moins précises que celle qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on pourra vous dire le mois de... Là, on est au mois de mars, on pourra vous dire le mois de mai, le mois de juin seront plus pluvieux, plus secs que la normale, hein, mais pas beaucoup plus de précision que ça. Mais ça avance, on fait des progrès réguliers. Plus on avance, plus ça devient difficile, effectivement, mais on fait toujours des progrès, on a toujours des espoirs.
On va continuer de parler de la pluie et du beau temps avec vous, Eric Allard. Ce sera juste après Public Service Broadcasting avec Go.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point.
Okay, all flight controllers, go, now go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent.
We're off to a good start. Play it cool.
Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
75 feet, down and a half,
1202
alarm. 60 seconds. We're going, that flight.
We're going, that alarm.
40 feet, down,
2 and a half.
If it does 3
occur,
we'll be go.
30
seconds.
Over. 12:01. 12:01,
roger, 12:01 alarm.
12:01 alarm.
Stand tight, we're go, flight.
Okay, we're go.
We've had
shutdown.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay, no stay, all flight controllers. Retro,
stay.
Fido,
stay.
Guidance. Control.
Stay.
Telcom.
Stay.
GNC.
Stay.
Ecom.
Stay.
Surgeon.
Stay.
Retro.
Go.
Vital.
Go.
Guide.
Go.
Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Recon, go. Surgeon, go. Retro, go. Fino, go. Guidance, go. Control, go. Retro, go. Fino, go. Guidance, go. Roll, go, 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 go.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Soleil et ciel bleu en plein mois de décembre, ça change un peu les habitudes.
Et on revient maintenant à la météo. Certes, vous l'avez constaté, il fait un peu plus frais depuis hier. Il y a quelques gelées le matin, mais l'hiver reste extrêmement doux. La nature est complètement déboussolée. On en parle depuis quelques semaines.
Bah, depuis quelques années déjà, je trouve qu'on n'a plus vraiment de saison très marquée. On n'a plus vraiment un très bel été et ni un hiver très froid. Et ça fait quand même depuis... quelques dizaines d'années, je dirais, où on note une dégradation au fil du temps.
Il n'y a plus de saison. Ce soir, on en parle avec Éric Callard, chef de centre de Météo France à Beaucouzé, à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie. Alors, il est souvent question d'hiver trop chaud ou d'hiver exceptionnellement froid ou d'été trop chaud ou d'été trop frais. Est-ce que l'exception est devenue la règle, finalement ?
Non, je ne crois pas. Il y a une évolution progressive qui se fait. Surtout depuis la fin des années 1980, on constate en Anjou un réchauffement progressif des températures. Pour l'instant, disons qu'en au cours des 60-70 dernières années, on a, si on peut dire, gagné pratiquement un degré. 7 dixièmes, 8 dixièmes de degré sur une moyenne annuelle de température, ce qui est très important. C'est très élevé. Bon, c'est la seule conséquence locale du réchauffement climatique global qu'on peut voir. Il n'y a pas de conséquences observées sur les pluies, par exemple, pour l'instant.
Quand on dit qu'il n'y a plus de saison, ce n'est pas vrai du tout, alors ?
Non, ça, globalement, ce n'est pas vrai. C'est aller un peu trop vite pour simplifier les choses. Y a une chose qui a changé quand même, c'est que nos ancêtres, nos grands-parents disaient il n'y a plus d'hiver comme autrefois. Autrefois, il y a des hivers très froids, etc. Ça, c'est un peu vrai. Si on regarde, par exemple, le nombre de jours de gel pendant un hiver, au début des années 50, il était à peu près à 60 jours par hiver de gel. Aujourd'hui, on est rendu à une moyenne de 30 jours par hiver de gel. Donc on a moitié moins de gel en hiver qu'il y a 70 ans. Quoi.
Alors, moins de gel, quand même 1 degré de plus en 70 ans, il y a quoi d'autre comme conséquence de ce réchauffement climatique qu'on peut constater au niveau local ou voire au niveau national ?
Au niveau local, c'est les conséquences les plus nettes. Après, il y a des conséquences de ce réchauffement lui-même. Par exemple, la date des vendanges en Anjou a avancé de 3 semaines au cours des 70 dernières années. Donc, c'est-à-dire que le raisin mûrit beaucoup plus rapidement. On pourrait penser que c'est une bonne chose. En réalité, ce n'est pas très bon pour la qualité du vin final, si j'ai bien compris les spécialistes.
Et alors, la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, elle est entière ou elle est partielle ?
C'est l'essentiel du réchauffement climatique. Hein. L'activité humaine, pour 80-90%, c'est l'origine du réchauffement climatique. Après, il y a des éléments naturels qui entrent en compte, qui font varier les températures du globe. Mais aujourd'hui, on en est sûr, c'est l'homme qui est le principal responsable du réchauffement.
Selon les sources, il est dit qu'à la fin du siècle, donc en 2100, la température de la Terre pourrait avoir augmenté entre 1,5 et 4,5 degrés. Ça vous semble plausible, cette échelle-là ?
Ah, non seulement c'est plausible, mais c'est très, très probable, malheureusement. En gros, actuellement, ces prévisions-là sont faites par ce qu'on appelle le GIEC, c'est-à-dire un groupement international de spécialistes du climat, qui travaille dans le cadre de l'Organisation Météo Mondiale. Ces spécialistes, ce groupe représente la totalité des gens qui travaillent sur le climat. La structure, le fonctionnement du groupe est tel qu'il ne peut pas y avoir de doute sur les résultats des études. Et ces résultats montrent qu'effectivement, quelles que soient les actions qu'on mette en route aujourd'hui, le climat va continuer à augmenter, la température va continuer à augmenter, pardon, vraisemblablement entre 1 et 3, 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Si on agit, si on n'agit pas, on pourrait aller jusqu'à 5, 6 degrés d'augmentation de température. Si on compare par rapport à ce qui s'est passé au cours des 60-70 dernières années, c'est 4, 5, 6 fois plus d'augmentation que ce qu'on a observé jusque-là. C'est catastrophique par rapport à ce qu'on a observé jusqu'alors.
Avec quelles conséquences On parle du niveau de la mer, on parle de pluie, plus de pluie, de sécheresse plus longue. Qu'est-ce qui peut être imaginé?
Alors, il y a des conséquences dont on est à peu près sûr, d'autres moins. Les conséquences les plus probables, c'est une augmentation. Je parle de nos régions, en France en particulier. C'est une augmentation des sécheresses d'été. Donc, les pluies seront vraisemblablement nettement moins fortes en été. Une augmentation des canicules. Actuellement, on a chaque été entre 5 et 10 jours de température très élevée, à plus de 30-32 degrés. À la fin du siècle, vraisemblablement, on sera à un mois, une trentaine de jours de température très élevée. Bon, pour les gens qui aiment bien être dehors, ça peut être intéressant. Pour tous les organismes fragiles, les personnes âgées, etc., c'est beaucoup moins amusant à constater. Autre conséquence probable, c'est une augmentation des pluies intenses en hiver. Donc une augmentation des risques d'inondation, une augmentation des jours difficiles et des périodes de tempête un petit peu.
Qu'est-ce que vous attendez, Éric Allard, de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à Paris? Est-ce que vous pensez qu'il peut en découler des réformes intéressantes? Ou est-ce que, comme vous le disiez, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va augmenter au moins de 1,5?
L'atmosphère a une très forte inertie, donc il y a déjà tous les gaz à effet de serre qu'on a rejetés au cours des 50 ou 60 dernières années vont avoir un effet dans les 30 ou 40 prochaines années. Par contre, là aujourd'hui, à partir de maintenant, si on ne prend pas de mesures pour réduire de manière très rapide et très importante les rejets de gaz à effet de serre, on pourra dépasser fortement les 4 ou 5 degrés que je citais tout à l'heure. L'idéal, si on peut dire, ce serait de ne pas dépasser 2 degrés. Pour la raison suivante, si la température de l'atmosphère n'augmente pas de plus de 2 degrés, l'atmosphère va continuer à fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Bon, il fera plus chaud, mais globalement, il n'y aura pas de modification sensible du fonctionnement de l'atmosphère. Si on dépasse 2 degrés, en particulier si on atteint 4, 5, voire 6 degrés, ce qui est tout à fait faisable si on ne prend pas de décision à la fin de l'année, l'atmosphère va modifier son fonctionnement et on va se retrouver face à des phénomènes qu'on n'a jamais vus, qui pourraient être des phénomènes de tempêtes beaucoup plus fréquentes, des phénomènes beaucoup plus difficiles à supporter par l'humanité en général. Et je ne parle que de la région d'Europe. Ce sera vraisemblablement beaucoup plus catastrophique sur certains pays d'Asie, par exemple.
Éric Allard, puisque vous êtes là, on va en profiter, on va en terminer avec les prévisions météo pour les jours à venir. C'est possible ça ou pas ?
Oui, c'est possible. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, donc je vais quand même vous les donner. Mais a priori, c'est de la pluie mardi, de la pluie jeudi, et peut-être une amélioration pour le dimanche. Si tout le monde est bien sage, on aura peut-être du soleil dimanche.
Le printemps, il faut attendre alors, c'est ça ?
Oui, il faut attendre encore un petit peu. C'est le printemps, théoriquement, on est au printemps depuis 2-3 jours, mais il va falloir attendre encore un peu avant de l'avoir réellement.
Début avril ?
En gros, il y a un décalage entre les dates astronomiques officielles du printemps et la météorologie. Il y a un décalage d'un mois à peu près. Donc,
super.
En général, le printemps en moyenne arrive vers la mi-avril, effectivement.
Bon, on attendra. Merci beaucoup, ouais. Éric Allard, d'avoir été avec nous.
Are you renting a flat? Do you stare at the this wreck. Your righteous homicide, it's like a scar on my neck and a thorn in my side.
C'était Vigilante de Black Yaya qui sera en live au Musée des Beaux-Arts mardi prochain, 31 mars, dans le cadre de du Festival de la Création Universitaire en partenariat avec le Chabada. Et nous, Radio Campus Angers, on y sera aussi.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
À eux 5, ils concentrent 5 groupes angevins non contents. Ils ont décidé d'en créer un autre avec lequel ils seront en concert jeudi au Bar du Quai. Bonsoir, Death Gazer.
Salut.
Salut.
Représenté ce soir par Jérémy, le batteur du groupe, qui fait aussi partie de The Blind Sons, Scarlett, The Paddocks et Léonie, et Romain Lejeune, donc guitariste, qui fait également partie d'Eagles Gift, Scarlett et The Blind Sons. Il manque donc Maxime, qui chante et qui fait également le groupe Sainte-Carole, enfin partie du groupe ouais. Sainte-Carole. Simon, claviériste, Eagles Gift également. Et puis Dorota, bassiste, il me semble, qui chante également. Qui fait partie de Scarlett et The Blind Sons. Alors, on va venir sur le projet de Death Gazer. Qui est à l'origine du projet? Ça vous suffisait pas d'avoir autant de groupes?
Ouais, c'est vrai qu'on était déjà pas mal occupés, mais c'est parti plus d'une déconnade parce qu'on avait plusieurs groupes ensemble, sauf avec Maxime, du coup, le chanteur de Sainte-Carole, qui a rejoint Wild Valley. Et du coup, on avait envie de buffer, de jouer un petit peu avec lui. Donc on a fait une répète tout simplement avec Maxime et puis ça l'a vraiment fait. Après le style musical c'est vraiment venu tout seul, c'est ce qu'on a joué en premier qui est venu quelque chose un petit peu improvisé et un petit peu violent et ensuite on a enregistré. Enfin voilà, c'était pas prévu, hein. C'était pas prémédité de faire un groupe, c'est parti d'une répète. Ouais.
Parlant du style musical justement, moi j'ai parlé un petit peu avec Simon en préparant l'interview, voilà comment il définit la musique. Du punk, psychobilly, noise drone. À vous de définir Death Gazer.
Ouais. C'est wow, pas mal. Wow. Si, c'est ça. Ouais, non, mais si, il y a un côté punk et noise. Des groupes comme Sea O'Seas, par exemple, le même genre de rythmique et de tempo. Après, on est des trucs un peu plus drone et un petit peu plus psyché.
Drone, pour ceux qui connaissent pas, dont moi, à la base, c'est quoi drone?
Alors, c'est de la musique très ambiante et qui est souvent un peu monocorde, donc en fait on a un accord qui reste pendant très longtemps, quelque chose d'un peu lancinant, très répétitif et souvent ça peut aussi s'apparenter à du noise parce que c'est souvent un son qui est une texture sonore qui est un petit peu violente et voilà, le volume sonore est en général assez fort aussi dans les groupes comme ça de drone et de noise et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec Death Gazer, on aime bien pousser les amplis 11. Donc voilà, un peu l'esprit du... Il y a des groupes comme Deer Hunter aussi, on s'inspire de ce genre de choses. Ouais.
Je crois que vous définissez le groupe comme c'est bien mais un peu fort, c'est ça?
Oui, exactement. C'est pas nous qui le définissons comme ça, hein. C'est une personne, après notre premier concert, qui a noté ça sur le Facebook en fait, de Death Gazer, et on adorait la phrase. La personne avait dit ouais, c'est bien mais c'est un peu fort. Et du coup, on l'a gardé dans la bio. Ouais.
C'est quoi vos influences communes à tous les cinq puisque vous venez de... Bon. Il y a des groupes qui vous faites partie parfois des mêmes groupes, mais vous avez quand même des formations différentes. C'est quoi vos influences communes? Qu'est-ce qui vous rassemble alors?
Oula, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on vient vraiment tous d'univers complètement différent. Moi, personnellement, je viens un petit peu à la base du punk rock mélodique. Rock aussi, pop. J'aime beaucoup les Hives. C'est aussi un moment ce qui nous a rapprochés avec Romain. On avait commencé à composer des morceaux dans cet esprit-là. voilà, après, c'est très difficile. Je sais pas trop.
C'est vrai que tous les deux, en plus, pour le coup, on n'écoute pas forcément les mêmes choses. Mmh. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on puisse jouer ensemble, et au contraire, quoi. Mais avec Simon, oui, on a des influences un petit peu plus proches sur le côté psychédélique. Mais ouais, Jérémy, c'est vrai que les Hives, c'est un groupe qu'on écoutait quand on était en coloc. Et on avait commencé à faire des bouts de morceaux qu'on a récupérés pour Dave Gazer. Donc en fait, dans le groupe, il y a aussi des morceaux, des démos, des maquettes qu'on avait fait, moi, Jérémy et Dorota, quand on était en coloc ensemble. Mais ça remonte, ça.
Alors, vous avez sorti un mini-album en septembre dernier, le bien nommé Death Gazer. Vous avez joué au Donald's autour du festival, autour de Lévitation, c'est ça ? C'était en septembre, au Joker's Cup Pub également. C'est quoi votre objectif ? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel enregistrement, plus de live, ou est-ce que ce rythme-là, pour l'instant, plutôt calme, on peut dire, vous suffit ?
Très bonne question. On est en train de se poser des questions, justement. Non, je sais pas, l'idée c'est vraiment pas se prendre la tête, c'est vraiment un projet, on a tous déjà beaucoup de projets, donc c'est vraiment de s'amuser, de se retrouver, et on verra bien en fait, je pense qu'on se pose pas trop de questions, l'idée c'était surtout d'enregistrer, de faire des trucs qui nous plaisent, se défouler un peu, enregistrer, et après s'il y a des concerts, pourquoi pas, enfin nous c'est ce qu'on aime faire aussi. Après, on verra un peu où le vent nous portera.
Ouais, c'est un peu difficile avec les disponibilités quand même de tout le monde. Parce que comme on est cinq dans le groupe avec voilà, des musiciens de pas forcément des mêmes formules, c'est quand même compliqué que tout le monde soit dispo en répète ou pour enregistrer un clip ou des choses comme ça. Donc on fait comme on peut, on va dire, on force pas les choses. C'est vrai que les personnes qui étaient venues au concert nous avaient dit « Ah, on aimerait bien un nouveau CD, plus de dates et tout ». Mais ouais, c'est pas évident et c'est pour l'instant pas la priorité du label. Mais effectivement, je pense que quand on se libérera un petit peu plus tous, peut-être cet été, on va recomposer des morceaux et réenregistrer quelque chose pour sortir du neuf à la rentrée, on va dire.
Alors jeudi soir, ce sera la première édition de la White Night, une soirée présentée par White Valley Records. Parlons donc de White Valley, qui réunit six groupes angevins, The Paddock, Scarlett, San Carol, Eagles Gift, The Blind Sons et Death Gazer. Il est né des groupes, où les groupes sont venus se greffer au label. Comment ça s'est passé, la naissance de White Valley Records ?
Tout au début, moi j'avais deux groupes, j'avais Scarlett et Eagles Gift, qui tournaient un petit peu. C'est moi qui me suis toujours un peu occupé du démarchage, de trouver des concerts, d'avoir l'asso donc pour faire les contrats, les choses comme ça. Et donc je me suis dit, ce serait peut-être plus simple de centraliser plutôt que de à chaque fois d'avoir d'envoyer deux mails, de faire des, même pour le démarchage, d'envoyer à chaque fois deux newsletters par exemple. Ça me semblait un peu compliqué. Je me suis dit que j'allais rassembler ça sous une espèce d'entité. Alors c'était plus une asso qu'un vrai label au début. Et en fait, quand j'ai eu cette idée-là, j'en ai parlé un petit peu à Maxime et à Jérémy. Et eux ont eu envie de se greffer à ça, en disant, nous aussi, pourquoi pas, comme ça, on centralise le truc. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on se voyait, on s'est fait quelques réunions, puis on s'est dit, faut autant monter un truc vraiment, vraiment sérieux autour d'un label, carrément. Donc, avoir cette entité label, où là, il y a vraiment de la production de disques, plus que du booking, parce qu'on fait forcément du booking chacun dans nos groupes, mais là il y a aussi de la production de disques, l'organisation de soirées, voilà, comme la Wild Night, et puis d'autres actions qu'on fera par la suite.
Est-ce que vous visez à agrandir la famille Wide Valley Records ? Est-ce que vous accepteriez d'autres groupes avec vous ? Comment ça, vous avez déjà des projets pour agrandir ?
Ouais, bien sûr. L'idée, c'est d'agrandir. Après, le concept dans Wild Valley, c'est quand même qu'il y a forcément une personne de chaque groupe qui soit dans le bureau, donc qui participe au développement du label, qui travaille. Donc, par exemple, Jérémy, lui, est plus dans tout ce qui est comptabilité. Il tient les comptes. C'est des choses que les autres font de manière un peu aléatoire, donc c'est pas mal. Dorota, a fait le plus les visuels, a fait les newsletters. Moi, je fais aussi plus de booking. Donc, on a chacun un peu un rôle. Donc, l'idée, ce sera d'intégrer des nouveaux groupes. Mais il faudra que dans ces groupes-là, il y ait une personne référente qui aussi donne de son temps, en fait, pour le collectif. Donc, c'est un label collectif. Donc, voilà, on essaye de s'entraider les uns les autres. On ne travaillera pas pour un groupe. On ne va pas signer un groupe et dire on bosse pour lui. Non, il faudra que la personne s'investisse aussi dans le développement du label.
Sur votre site, il est écrit que vous préférez le véritable artisanat et les œuvres authentiques à la musique de masse. Alors, c'est quoi le véritable artisanat et les œuvres authentiques ?
Je sais pas, Jerry, on peut parler par exemple de comment on a fait nos CD dernièrement.
C'est vrai que c'est que nous on a fait nos disques avec le label Sérigraphie, c'est un imprimeur qui est sur Angers, qui adore la musique, avec qui on s'entend super bien. Donc l'idée c'est de trouver aussi des deals qu'on puisse faire nos CD comme on l'entend. Vraiment, voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez compliqué, ça coûte de l'argent, c'est assez cher. Donc là on a des petits arrangements. Donc voilà, l'idée artisanale, c'est vraiment faire comme on l'entend, avec les gens qui aiment ce qu'on fait. Voilà. Et puis, après, je sais pas trop.
Sans qu'il y ait trop de relations commerciales.
Et voilà, ouais.
Donc c'est vrai que tout ce qu'on fait, même quand on fait de la production de clips, on paye pas une prestation à quelqu'un et donc qui suivrait notre scénario. On prend en général des copains qui se débrouillent, ou alors des assos qui ont envie de nous faire un cadeau et de faire un clip pour tel groupe. Ça arrive de temps en temps. Mais dans ce cas-là, ils réfléchissent avec nous, ils font un peu aussi ce que eux veulent, enfin ce qui leur plaît de tourner. Donc il y a vraiment un échange artistique, même dans tout ce qu'il y a autour de la composition. C'est-à-dire dans la vidéo, dans la production de CD. On essaie de trouver qu'il y ait toujours une petite touche artistique et qu'il n'y ait pas trop de cet aspect commerce, quoi.
Et alors justement, est-ce que cet aspect commerce, cet aspect musique de masse, pour vous citer, il existe à Angers ? Est-ce qu'il y a certains groupes, alors on ne va pas les citer, mais est-ce qu'il existe une musique de masse comme ça à Angers, sur la scène angevine ?
Je trouve pas, non. Non, non. Non, sincèrement, je pense que Angers a aussi toujours été plus ou moins rock. Voilà, voilà, de manière historique. Et on a toujours ce relent qui reste. Hein. Puis à l'extérieur, les gens nous le disent. Nous, d'ailleurs, ils ont vraiment cette image qu'Angers est une ville rock. Par exemple, pas forcément pour citer Angers, mais à Nantes, je trouve que oui, il y a plus de musique de masse, par exemple. Il y a plus de groupes qui sont, en tout cas dans une optique, même si ça ne s'entend pas forcément sur le son, dans le développement du groupe, des fois, oui, c'est un petit peu plus... on sent que voilà, ils font leur histoire à eux, qu'ils veulent vraiment surtout tourner, marcher, vendre du CD, plus que faire des concerts et de faire plaisir aux gens, tout simplement, quoi.
Alors à vous cinq, vous êtes donc Blind Sons, Paddock, Sun, Carol, Eagles, Gift et Léonie. Le fait de retrouver les mêmes musiciens comme ça dans différents groupes, est-ce que c'est une particularité en Angevine ou ça se fait partout ? Et comment vous l'expliquez ?
Je sais pas si ça se fait partout. Je pense que ça se fait probablement de plus en plus. Parce qu'il faut voir qu'aussi aujourd'hui, vivre de la musique, c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai que multiplier les groupes, c'est toujours intéressant. Pour eux aussi, deux styles complètement différents, c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, personnellement, ça m'apporte plein de choses. Le fait de faire un groupe de pop, un groupe de rock, plus violent, voilà. Je trouve ça génial. Après, ailleurs, je sais pas trop. Moi, je connais pas trop. Sur Nantes, je crois que ça se faisait pas mal.
Sur Nantes, si... ouais, moins... Moi, c'est que j'ai l'exemple d'Austin, en fait, que j'y suis allé deux fois, du coup, grâce au Shabada. Et là-bas, c'est ça, mais x10, quoi. Les musiciens, ils jouent dans 50 groupes. Enfin, en tout cas, ils connaissent le set de 50 groupes. Et quand un musicien n'est pas dispo, il y en a un qui peut le remplacer du jour au lendemain, il connaît les morceaux. Là, en même temps, c'est beaucoup plus compliqué aux États-Unis d'en vivre. Donc, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et là-bas, les musiciens, oui, ils connaissent 50 répertoires. Ils peuvent être appelés au dernier moment pour jouer avec un groupe, même dans le rock, hein, c'est pas forcément de la musique d'animation, même dans le rock, voilà, ils s'échangent pas mal les musiciens, donc à côté on est encore des petits joueurs hein, là-dessus. Ouais, mais par rapport à d'autres villes, non, sur Nantes, ouais, je pense que ça se fait moins quand même.
Ça s'est fait. Mais
ça s'est peut-être fait, mais en ce moment.
Ça va peut-être revenir, je sais pas trop. Ouais.
Et alors, est-ce qu'on peut parler de l'actu de vos autres groupes ? On va commencer par Jérémy, peut-être, pour ce The Paddocks, par exemple, est-ce qu'il y a une actu à venir ?
Pour les Paddocks, on va travailler là sur un nouvel album, du coup. On vient de sortir notre album en vinyle il y a quelques semaines, un mois ou deux. Et donc voilà, donc là, on a très envie d'en composer un deuxième. Donc dans les semaines à venir, on va commencer ça. Après, voilà, des dates, pas énormément de concerts. On a vraiment envie de se concentrer plutôt sur l'album, quoi.
Et en ce qui concerne Scarlett et The Blind Sons, puisque vous en faites tous les deux partie,
Scarlett, je laisse en parler.
Non, mais Scarlett, on a composé un album un petit peu en privé. On n'a pas trop parlé parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner. Et du coup, là, on a terminé les compositions. Donc on est en train de l'enregistrer. Et puis du coup, là, au concert du Bar du Quai, on va jouer uniquement les titres de ce nouvel album. Donc bon, les gens qui aimait bien les anciens morceaux, bon, ils vont être un peu déçus parce qu'on n'en joue aucun. Ouais, vraiment, ce sera une date test aussi pour voir comment les nouveaux morceaux sonnent, ce que les gens en pensent. Donc on n'a pas voulu trop communiquer pour faire un peu la surprise, et puis parce qu'on n'était pas encore, on savait pas si on allait jouer ces nouveaux morceaux au concert. Mais effectivement, voilà, donc il y a un nouvel album qui sortira forcément par la suite, qu'on est en train d'enregistrer.
The Blind Sons.
Bon, on a pas mal de dates en fait, on tourne régulièrement. Là, on va jouer au Ferrailleur la semaine prochaine pour la finale régionale des Inrocks. Donc c'est un tremplin, c'est pas mal, parce que je crois qu'il y avait quasiment 1000 candidatures au début, et il en reste 90. Donc c'est pas mal, ouais. On a démarré assez vite, parce que c'est assez récent, c'est même période que Dave Gazer. Mais les retours sont plutôt bons sur la presse, sur les programmateurs, donc voilà, ça suit son cours.
Et enfin, Eagle's Gift.
Eagle's Gift, les actus tournent pas mal sur le Facebook.
À Bourges, je crois.
Voilà, on sera à Bourges le 26 avril, me semble-t-il. On a pas mal de dates aussi, ouais. Ça suit son cours, l'album, il sort fin octobre.
On n'a pas fini de vous voir, donc en tout cas, la prochaine date, c'est jeudi là, à partir de 21h30 au bar du Quai. Donc il y aura Death Gazer et Scarlett. Et tout de suite, on va écouter un morceau de Death Gazer, ça s'appelle Last Drop. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus?
C'est un morceau qu'on n'arrive pas à jouer en live. Ce morceau est très compliqué, donc on fait tout le temps des versions alternatives en live. Donc si les gens l'entendent, je les mets au défi de reconnaître le morceau jeudi prochain. Non,
ça... Et s'ils ne sont pas contents, il faudra aller voir Maxime.
Merci beaucoup, Romain et Jérémy, d'avoir
été
avec nous.
Merci.
They're all like little bad things who want to crash before they grow. They're on the sun, use their sweet, spreading out of control. I had kids. They never know the shot of when to start to talk. Woohoo! Smelling like dogs. I hear them screaming around, morning getting a blow in the dirt. I had kids. They never know how to shout, it won't start to talk. Woo-hoo!
Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est l'ouverture du Festival de la création universitaire. Avec Tout est dans la tête à partir de 20h, une visite de l'Université d'Angers en audioguide, mais sans le son. Le reste de la proc, c'est sur le www.univ-angers.fr/culture. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter et à réécouter tous les lundis soirs. Otros Mundos vous fait voyager à travers la planète. Rencontre ce soir avec Com et Lisa.
Com et Lisa sont de jeunes danseurs formés au CNDC, à Angers, le Centre National de Danse Contemporaine. Après 2 années de formation, ils sont partis sur les routes en couple vers le soleil et les îles grecques. De rencontres en aventures insolites, ils nous racontent les premières étapes de leur voyage, 3 jours du sud de la France vers les frontières italiennes, le tout en stop et le pouce en l'air.
Le trajet en Grèce, il est un peu...
Chaotique.
Un peu chaotique, ouais. On a pas mal suivi ce que les gens nous proposaient comme coin à visiter.
Quand on se faisait prendre par quelqu'un dans la voiture, on lui demandait quel endroit pour lui il fallait qu'on visite. On fonctionnait un petit peu de voiture en voiture. Ça décidait un petit peu de notre itinéraire.
Et qu'est-ce qui était à la base de ce voyage au départ ?
On a un copain qui habite à Athènes, qu'on a rencontré pendant notre formation. Ça faisait plusieurs fois qu'il disait que ça serait chouette, qu'on pouvait venir en Grèce, que ça lui ferait plaisir de nous accueillir chez lui et tout ça.
Mais c'est une invitation un petit peu en l'air et nous on l'a pris au mot.
Ouais, c'est vrai qu'il disait c'était un peu comme ça. Et puis finalement un jour on l'a appelé, on lui a écrit en lui disant
« Bon, on est là dans 2 mois ».
On est là dans 2 mois.
Vous pouvez réécouter la totalité d'Otros Mundos sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, vous retrouvez Regarde ailleurs. Nous, on se retrouve demain à 19h, on parlera du projet de loi de santé. Merci à Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Raoul pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.